J'aimerais ce matin partager avec vous un texte qui est généralement assez peu travaillé, alors que ceux qui précèdent et ceux qui suivent le sont davantage. J'aimerais vous parler de 1 Roi, chapitre 18, et on lira les 15 premiers versets de ce passage, peut-être même les 18 premiers versets de ce passage. 1 Roi, chapitre 18, les versets 1 à 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, la troisième année en ces termes. « Va te présenter devant Achab et j'enverrai la pluie sur la surface du sol. » Élie alla se présenter devant Achab, la famille était intense à Samarie. Achab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés, 50 par 50, dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays, vers tous les points d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets, nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Alors Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab pour me faire mourir ? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi tu dis « Va dire à ton Seigneur, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à mon Seigneur, voici Élie, il me tuera. » Mais Élie dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Achab. » Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, lui fit son rapport, alors Achab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Achab lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. » Trois personnages dans ce passage. J'aimerais que nous prenions le temps de regarder ces personnages ensemble. Nous sommes ici bien plus que trois, et peut-être le Seigneur permettra qu'au travers de ces trois personnages, nous retrouvions tout ou partie de notre existence, et que peut-être ainsi, nous puissions aller plus loin avec notre Seigneur. Donc ce passage s'inscrit, vous allez me dire que la palisse n'eût pas dit mieux, entre le chapitre 17 et la fin du chapitre 18. Le chapitre 17 est peut-être le passage le plus connu de la vie d'Élie. Cet homme sorti d'un village presque au milieu de nulle part, dans la région de Galaad, un petit que Dieu a envoyé parmi les grands, ou plutôt vers le grand et sa femme, c'est-à-dire vers Achab, le roi d'Israël. Alors quand on dit Israël, rappelons-nous que nous sommes après la partition, c'est-à-dire que c'est le royaume du Nord, ce sont les 10 tribus, puisque par ailleurs, Il y a derrière la ville de Jérusalem le royaume de Juda, deux tribus, plus celle d'Élie, plus celle, pardon, des Lévites, qui sont restés fidèles à l'Éternel et qui sont traités à part. Donc là, on est sur une partie seulement d'Israël, les 10 tribus. Et donc, Akab en est le roi. Il est marié à Jézabel, dont on reparlera tout à l'heure, et qui ne compte pas pour rien dans la royauté de ce royaume. Il y a donc Élie qui est envoyé vers lui pour lui annoncer un jugement, 3 ans sans pluie. Ou plus exactement, Élie dit qu'il ne pleuvra pas si ce n'est à sa parole. Et donc Élie va se retirer, être protégé par l'Éternel d'abord dans un torrent, puis chez une veuve d'un royaume voisin. Et il vivra là caché pendant ces 3 années, 3 ans et demi même, si l'on en croit le texte de Jacques. Ça, c'est donc le chapitre 17, et puis la fin du chapitre 18, c'est un épisode extrêmement fort, extrêmement poignant, où Élie tout seul va défier 450 prophètes de Baal, ceux qui mangent à la table de la reine, autrement dit, qui sont les invités, mais aussi les conseillers du royaume. Et puis, quelque part, même si le défi est moins net par rapport à eux, il va aussi défier les 400 prophètes d'Astarté qui sont là et qui mangent aussi à la table de Jézabel. Alors, dans un cas, le défi est direct, puisque les prophètes de Baal vont avoir à démontrer que Baal est Dieu en implorant son intervention face à un sacrifice. Il faut que Baal lui-même intervienne pour que l'Holocauste se déroule. Et en contrepartie, lui tout seul va invoquer l'Éternel et Dieu va répondre en envoyant le feu du ciel. Il y aura effectivement une démonstration de puissance par rapport à Baal. Mais il y a bel et bien un jugement des deux cultes, puisque après cette intervention miraculeuse de Dieu, eh bien Élie va permettre l'élimination de ces 850 prophètes, d'une part ceux de Baal, mais aussi ceux d'Astarté. Deux passages qui sont très connus, et puis au milieu, donc, ce retour d'Élie qu'on n'attendait plus, mais qui est toujours là, et qui se rappelle que c'est à sa parole que la pluie doit revenir. 3 personnages très extrêmement différents. Alors j'aimerais commencer non pas par Élie, mais j'aimerais commencer par Akab. Akab nous est bien connu parce que les textes qui nous parlent du prophète Élie seront aussi nombreux pour nous parler de cet Akab, qui d'ailleurs, à un moment donné, finira par dire à Élie « Tu m'as trouvé mon ennemi ». Ce qui veut dire qu'il y a quand même une très grande proximité, même si c'est peut-être une proximité d'adversité, mais il y a une très grande proximité entre le ministère d'Élie et cet homme. Il était fils d'Omri, beaucoup moins connu. Alors, je vais quand même un petit peu parler d'Omri parce que le nom d'Akab veut dire frère du père, au sens il est semblable, égal à son père. Alors, si après tout son nom dit qu'il est égal à son père, c'est que cet homme, Omri, doit gagner à être connu, au moins pour parfois ne pas l'imiter. Omri était un chef d'armée. Il a vécu un petit peu en deçà de moins 900 avant Jésus-Christ. Et il a eu une promotion très importante, puisque de chef d'armée, il est devenu roi. Dans quelles circonstances? Eh bien, c'est très simple, il était le chef d'armée d'Éla, un roi ivrogne qui a régné très peu de temps, à peu près 2 ans. Et c'était à une époque marquée par l'instabilité dans les 10 tribus. Autrement dit, quand on était roi, on ne vivait pas longtemps, si vous préférez. et on ne mourrait pas tranquillement dans son lit de vieillesse, mais plutôt d'événements horribles. C'est ce qui s'est passé pour Ella, qui, alors qu'il était dans l'une de ses beuveries, s'est retrouvé assassiné par un chef d'armée aussi. C'était le chef de la moitié des chars, Zimri, qui s'est révolté contre lui et qui est venu donc le massacrer. Et dans les jours qui ont suivi cette conspiration, il y a eu des mouvements divers, et notamment les gens qui ne se reconnaissaient pas derrière ce Zimri ont choisi pour roi le chef d'armée Omri. À la suite de cela, il y a eu une guerre. Ça a été très rapide puisque ce sont seulement 7 jours que Zimri a régné. Il y a eu une guerre entre les partisans de Zimri et le restant des 10 tribus. Malheureusement pour Zimri, ils étaient peu nombreux, ses partisans. Il s'est assez vite retrouvé assiégé dans la capitale, où voyant qu'il n'y avait pas d'issue, il s'est suicidé en faisant brûler sur lui le palais royal. Ça aurait pu ensuite bien se passer pour Omri, qui était donc roi, sauf que là, une partie des gens qui l'avaient nommé ont dû découvrir des raisons de ne plus être satisfaits de lui et ont choisi de se rallier à un autre personnage moins connu qui s'appelle Tibni. Et donc, pendant 4 ans à peu près, il y a eu des conflits intestins, c'est-à-dire qu'il y a eu des conflits entre les gens de ces 10 tribus pour savoir qui allait être roi, conflit meurtrier, à la fin duquel Tibni est mort et Omri a régné seul. Donc, des problèmes politiques, mais ce n'est pas ce que nous laissera de plus certain cet Omri. Le principal problème, c'est que c'est un homme qui ne cherchait pas la volonté de Dieu et qui, semble-t-il, a fait encore monter d'un cran l'idolâtrie dans son pays. Il est connu parce qu'il a choisi, à un moment donné, une nouvelle capitale pour les 10 tribus. Capitale qui va d'ailleurs devenir synonyme de ces 10 tribus, c'est la ville de Samarie. Vous trouverez cela au chapitre 16, verset 24, où il est dit qu'il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, propriété de la montagne. Alors ça peut sembler un petit peu bizarre parce qu'on a du mal à retrouver le mot Shemer dans le nom de Samarie. Il faut simplement savoir que le nom que nous possédons est le nom araméen, babylonien si vous voulez. Effectivement, par exemple, sur les stèles qui sont rapportées de cette époque, en araméen, vous trouvez le nom de Samarie. Mais ça n'est pas le nom hébreu qui est Shomron, qui est effectivement extrait du nom de Shemer, qui fut le propriétaire de cette montagne. Donc, juste une petite parenthèse, mais ça m'avait toujours surpris qu'on puisse donner le nom et qu'on ne retrouve pas le nom, donc j'ai fait une petite recherche pour essayer de comprendre. Donc, il a bâti cette ville de Samarie, qui est synonyme ensuite, dans toute l'histoire prophétique de cette région, qui est synonyme d'idolâtrie. Et dès les débuts, il va lui-même agir extrêmement mal en préférant les cultes idolâtres au culte de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuait pas à avoir une certaine adoration pour l'Éternel. Quand on a fait les fouilles de cette ville, donc la ville n'existe plus, c'est un village, mais quand on a fait les fouilles de cette ville, on a retrouvé en couches successives les différents passages et donc on a réussi à remonter jusqu'aux embases de la ville. Alors il ne reste pas grand-chose, elle a été plusieurs fois balayée de la carte. Et donc forcément, on arrive à un niveau profond, mais en même temps avec des murs qui sont extrêmement bas, mais suffisants pour parler. et notamment pour laisser un certain nombre d'indications sur les noms qui étaient utilisés, par exemple, ou des choses comme cela. Et on a retrouvé énormément de noms, de gens ou de sites qui utilisaient le mot l'Éternel. Yahvé, si vous voulez. Donc ça montre bien qu'il y avait une religiosité par rapport au Dieu des Hébreux, mais seulement une religiosité mélangée à un ensemble de cultes à l'époque d'Omri. Par une stèle assyrienne, on sait que Omri a eu à faire pas mal de combats, et notamment, on sait qu'il a été vaincu par le roi de Syrie, qui lui a imposé un certain nombre de choses, mais notamment dans cette ville de Samarie, d'y ouvrir des comptoirs syriens, c'est-à-dire que, si vous voulez, des marchands sont venus et sont installés là pour vendre des produits d'importation. À l'époque, c'est un peu comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas le libre commerce, c'était celui qui dominait, qui décidait, qui avait le droit de vendre à l'international. Et voilà, donc, il y a eu, donc, à la suite de cette défaite, des commerçants syriens qui sont venus s'installer sur place. Et ça allait dans le sens de l'ensemble des gens qui étaient là et qui adoraient qui Baal, qui Astarté, qui d'autres dieux plus locaux, etc., etc. Son fils, donc, va lui succéder, vous le trouvez à partir du verset 29, toujours de ce chapitre 16, et il ne va pas faire mieux ni pire que son père, c'est-à-dire que ce sera un homme brillant par certains côtés, mais idolâtre jusqu'à l'extrême. Il se mariera avec une étrangère. Je vous rappelle que l'ordre qui avait été donné par Dieu aux enfants d'Israël, c'était de choisir dans sa famille, dans sa tribu plus exactement, si possible, en tous les cas, de choisir en Israël son conjoint ou sa conjointe. Il y avait, par rapport à la notion de la terre, des choses très importantes, mais il y avait aussi, par rapport à la conservation de la pureté de la foi, une nécessité. Et vous trouverez énormément d'éléments dans l'Ancien Testament pour montrer à quel point le fait d'aller vers les étrangers, que ce soit pour le mariage ou même d'autres choses, pour commercer, peuvent être mauvais. En fait, l'idéal était de conserver une pureté en se consacrant totalement à Dieu. Et à chaque fois que le peuple a accepté cette promixité avec les étrangers ou les étrangères, on retrouve l'introduction de culte. Et c'est ce qui va se passer parce qu'en fait, Akab va se marier donc avec une fille d'un prêtre de Baal. Donc son père était roi de Sidon, mais aussi prêtre. Et quand il va se marier, eh bien, il va introduire un temple de Baal dans la ville de Samarie. Alors le culte de Baal y était probablement déjà, mais il va aller plus loin. Il va élever un autel et un temple qu'il a bâti à Samarie. Vous trouvez cela au verset 32. Il va aussi s'intéresser au culte d'Astarté, culte qui est probablement le plus connu, puisqu'il a traversé l'histoire sur plus de 2 millénaires. Déjà à l'époque de Moïse, dans le Deutéronome, vous trouverez des textes contre le culte d'Astarté. Astarté, c'est l'Istar des Babyloniens, c'est l'Aphrodite des Grecs, la Vénus des Romains, c'est la même. Et donc, je vous dis, plus de 2 millénaires d'adoration, y compris dans cette région. Et donc, de textes dans l'Ancien Testament qui attirent l'attention face à ces cultes. Vous trouverez dans certaines versions les poteaux d'Akhéra. En fait, les poteaux d'Akhéra sont des idoles d'Astarté que l'on faisait. Donc, c'était des représentations d'Astarté vers lesquelles on allait faire un certain nombre d'actions cultuelles. Donc, il va introduire, là encore, un poteau d'Akhéra dans la ville de Samarie, au point que le texte au verset 33 dit qu'il fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Effectivement, le nom d'Akab est associé par la suite à une idolâtrie prononcée, à un personnage particulièrement odieux que nous n'aurions probablement pas apprécié de fréquenter. Mais probablement, son règne eût été beaucoup plus doux s'il n'était pas marié à cette Jézabel, qui non seulement a donc introduit par son mari ces différents cultes, mais est allée beaucoup plus loin. En effet, si vous avez relevé ce qu'on lisait tout à l'heure, on nous dit dans au chapitre 18, verset 4, que c'est Jézabel qui massacrait les prophètes de l'Éternel. Bien sûr, son mari a laissé faire. Mais visiblement, à plus d'une reprise, elle portait le pantalon, comme on dit. Elle exerçait le pouvoir à la maison et donc le pouvoir dans le pays. Et elle va donc avoir non seulement une influence sur son mari, mais à un certain moment, prendre directement l'autorité royale. Ici, pour le massacre, ou encore un petit peu plus tard, lorsque son mari aura à cœur d'avoir un certain terrain, eh bien, elle fera exécuter le propriétaire du terrain en prenant le sceau royal et en écrivant aux anciens de la ville carrément de mettre en place une erreur judiciaire, de produire des faux témoins, etc. C'est la fameuse histoire de la vigne de Naboth, vous l'aurez reconnue. Vous relirez, elle prend toute l'autorité royale dans ce sens. De plus, Akab a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il est capable à certains moments d'un repentir profond et sincère. C'est notamment le cas dans l'épisode de Naboth, où il va se repentir devant Dieu en prenant des signes extérieurs de repentir, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas seulement dans son coin, mais il le fait publiquement, reconnaissant par là sa responsabilité dans le meurtre qui avait été accompli par sa femme, bien sûr avec le sceau royal, c'est-à-dire avec l'autorité du roi lui-même. Mais en même temps, vous ne verrez jamais, à aucun moment, Jézabel avoir une telle attitude de repentir. Donc, Akab est un homme au cœur extrêmement partagé, un homme qui, à certains moments, peut être tourné vers l'Éternel, accepter le repentir, mais en même temps également un homme qui va faire les pires crasses, qui permettra que sa femme aussi aille dans des sens terribles, qu'il cautionnera sans aucune intervention pour empêcher cela. Cet Akab, je crois, est là pour nous parler. Pour nous parler, déjà, de tous ceux qui nous entourent et qui n'ont non seulement pas d'intérêt pour les choses de Dieu, mais qui parfois peuvent même avoir une certaine agressivité par rapport au Dieu auquel nous croyons. Il est là pour nous parler de gens qui vivent leur vie de tous les jours et qui peut-être auront une pensée pour Dieu au moment où ça va mal. Remarquez bien que quand Akab tombe sous le jugement de cette sécheresse, ce qu'il cherche, ce n'est pas à rétablir sa communion avec Dieu, ce qu'il cherche, c'est à punir Élie, ou en tous les cas au moins à le trouver, pour qu'il prie pour que la pluie revienne. Il est face à un jugement, mais au lieu de chercher à remédier aux causes du jugement, il cherche des comptes avec Élie. Et donc il le fait chercher, non seulement dans son royaume, mais même dans les royaumes voisins, des fois où il s'y serait réfugié. Elle est fréquente, cette attitude. on la rencontre souvent autour de nous, de gens qui sont là pour dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ?» et en même temps pour ne pas se poser de vraies questions sur leur vie spirituelle, sur les raisons de choses qu'ils pourraient vivre, si jamais c'était un jugement, mais il n'est même pas toujours écrit que les choses qui nous arrivent sont des jugements. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, par exemple, est-il dit, ou encore on peut penser à cette tour de Siloé qui s'était effondrée et dont les gens voyaient un jugement et se posaient la question, mais qui a pu pécher? Est-ce que c'est les gens qui ont été touchés par cet effondrement ou leurs parents qui avaient péché? Et Jésus montre clairement par sa réponse que tout n'est pas toujours jugement dans les choses qui nous arrivent. Donc Akab, un homme qui ne connaît pas une réelle relation avec Dieu, un homme qui a dû avoir à certains moments sa religiosité comme les gens de sa ville, mais en même temps un homme qui ne connaît pas vraiment Dieu, qui ne connaît pas sa miséricorde, sa grâce, et qui ne cherchera à la connaître que vraiment dans cet épisode de Naboth, un petit peu plus tard dans l'histoire de sa vie. Un homme qui terminera son existence de manière dramatique. Vous pouvez relire cette affaire et vous verrez que jusqu'à la fin, alors qu'il a une prophétie de Dieu qui annonce qu'il va mourir sur le champ de bataille, jusqu'à la fin, il persévère dans son endurcissement de cœur. Il n'aime pas le Seigneur. Alors je crois que ça peut nous parler peut-être ici à tel ou tel, car dans nos vies, la relation avec Dieu n'est pas quelque chose de spontané acquis à la naissance. Tout homme a dû découvrir un jour devant Dieu qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de demander pardon et qu'il avait besoin de démarrer avec Dieu, de repartir peut-être s'il avait cessé de vivre une relation avec lui. Akab, à aucun moment, n'était un condamné d'avance, sinon nous le serions tous. Et je crois qu'il faut réaliser que si nous n'appartenons pas au Seigneur, ou encore si nous vivons une époque où nous l'avons connu, mais nous sommes en conflit, nous sommes en difficulté, et il n'est pas le Seigneur de nos vies, alors il faut réaliser que comme Akab a pu se mettre à genoux dans l'affaire de la vigne de Naboth, et comme il aurait pu le faire bien avant, dans ce chapitre 18, alors qu'il était sous le jugement, eh bien nous aussi, nous pouvons nous mettre à genoux. Je crois que c'est important de réaliser que tout combat contre Dieu est un combat perdu d'avance. Il nous faut réaliser que toute neutralité par rapport à Dieu est une neutralité impossible. Nous avons besoin, dès aujourd'hui, de nous mettre à genoux devant notre Dieu, enfin devant Dieu, et de lui prier, enfin de le prier de devenir notre Dieu, de prier, de demander pardon pour nos offenses. Et le Nouveau Testament est là pour nous montrer qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ déjà le jugement de toutes les actions que nous avons pu commettre et qui sont contraires à notre Dieu. Toutes les actions de péché que nous avons pu commettre ont été jugées, punies en la mort de Jésus-Christ, et nous pouvons effectivement aujourd'hui être en paix avec lui, sans attendre autre chose, sans persévérer dans une colère contre Dieu ou le fait d'ignorer une ignorance de son amour pour chacun d'entre nous. Le deuxième personnage dont j'aimerais vous parler, c'est cet Abdias. Son nom, Abdias, est un nom prometteur. Il nous parle d'un homme esclave de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. C'est un nom qu'on retrouve dans bien d'autres lieu dans bien d'autres langues. Par exemple, vous connaissez peut-être un Abdallah. Abdallah, c'est l'esclave de Dieu en arabe, l'esclave d'Allah, qui est le nom que les Arabes donc donnent à Dieu. Eh bien, c'est le même nom. D'ailleurs, Abdias, Abdallah, peut-être vous retrouvez une certaine racine commune. Abdias avait un nom prometteur, mais en même temps une vie un petit peu différente. Certes, il nous est montré qu'il craignait beaucoup l'Éternel. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais en même temps, on découvre un homme, un petit peu comme Nicodème dans le Nouveau Testament, qui agit, un homme qui agit de nuit. Quand je dis de nuit, je veux dire en cachette, en secret. Alors, probablement, il y a des moments où il faut agir en secret, quand on est là en train de massacrer les prophètes de l'Éternel. Il est peut-être bien de les dissimuler de la colère de Jézabel pour qu'ils puissent effectivement survivre. Et il prend des risques, parce que si cela se sait, son sort est connu d'avance. Il sera rangé au même rang. Mais en même temps, la réaction qu'il a face à l'ordre d'Élie est là pour nous montrer toute son inquiétude, sa peur, son angoisse. Ce n'est pas seulement dans l'affaire des prophètes qu'il agit discrètement. C'est quelqu'un qui a peur des conséquences de sa foi si elle devient publique. Qu'est-ce que lui demande Élie ? Simplement d'aller dire à Achab qu'il arrive. Or, à trois reprises, il considère que cet ordre est une volonté de le faire mourir. D'abord au verset 9, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab pour me faire mourir ?» Ensuite, au verset 12, après lui avoir dit que l'Esprit de l'Éternel va le transporter ailleurs, et que donc Achab ne le trouvera pas, il dit, mais Achab va me tuer, qui me tuera? Et puis au verset 14, va dire à mon Seigneur, voici Élie, point d'exclamation, il me tuera. Ça peut sembler étonnant, cette insistance à trois reprises d'associer l'ordre à un jugement certain, à une mort certaine. La première des raisons, c'est tout simplement qu'il a peur de s'affirmer comme étant du côté d'Élie. Et le simple fait de rapporter l'ordre veut dire qu'il a été dans l'intimité d'Élie, qu'il ne l'a pas fait arrêter, et que donc, s'il ne l'a pas fait arrêter, c'est qu'il est de son côté. Mais cette angoisse, me semble-t-il, traduit une seconde chose. C'est que s'il est capable de reconnaître Élie dès qu'il le rencontre, je vous rappelle quand même qu'il n'y avait pas à cette époque-là les avis de recherche avec des photos d'Élie, qu'il n'y avait pas la télé, la radio, surtout la télé, pour montrer à quoi ressemblait Élie. Il fallait quand même une certaine pratique pour reconnaître Élie. Une certaine pratique du personnage. Bon, son costume était particulièrement reconnaissable. Il était réduit à sa plus simple expression en peau ou en laine de chameau. Donc c'était un vêtement assez rustre. Mais en même temps, on découvre qu'à l'époque, il y a des écoles de prophètes et que dans ces écoles de prophètes, a priori, les gens ont des manières assez similaires de s'habiller. Donc on n'est pas tout à fait sûr qu'il était le seul à porter ce costume. Il y avait sûrement d'autres signes distinctifs. Mais en tous les cas, après 3 ans, et alors qu'apparemment Élie est apparu une seule fois à la cour, il n'y a pas de problème. Il le reconnaît immédiatement et ce n'est pas Élie qui se présente. Donc il est capable de reconnaître Élie physiquement. Mais il me semble avoir du mal à reconnaître la parole de Dieu au travers de la parole d'Élie. Car s'il était certain qu'Élie va faire ce qu'il a dit, une bonne partie de son angoisse aurait dû s'effacer. Car sa peur, c'était qu'Élie disparaisse. C'était qu'Élie dise une chose et en fasse une autre. Or, je vous rappelle que la principale et peut-être la seule déclaration publique d'Élie, c'était qu'il ne pleuvrait plus si ce n'est à sa voix, à sa parole. Or, la principale vérification qu'on pouvait faire à ce moment-là que la parole d'Élie était vraie, c'est que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu. Et que, on était en train d'éliminer le bétail parce que on ne trouvait plus de quoi le nourrir et peut-être de quoi l'abreuver. Et qu'il y avait probablement des gens qui étaient en train de mourir, si ce n'était pas qui étaient déjà morts, de cette sécheresse. Je vous rappelle quand même que quand Élie arrive chez la veuve, plusieurs mois ou années avant, cette femme dit qu'elle n'a plus que de quoi faire un seul repas et qu'après elle s'attend à mourir avec son fils. Donc probablement déjà depuis plusieurs mois ou années, on a des gens parmi les plus pauvres, à chaque fois ce sont ceux-là qui subissent les conséquences des choses dramatiques, eh bien il y a des gens qui en sont morts. Et c'était le jugement annoncé par Élie qui s'accomplissait. Donc il y avait quand même quelques raisons de prêter attention à la parole d'Élie et de croire que s'il le disait, cela allait se faire. Donc Abdias me semble être quelqu'un qui a peur pour au moins 2 raisons. C'est que la première, il n'ose pas affirmer publiquement sa foi. Et la seconde, eh bien, c'est qu'il n'a pas cette intimité de Dieu, cette intimité qui lui permet d'être sûr des choses que le prophète annonce. Alors remarquez bien au passage qu'à aucun moment Élie ne lui adresse une parole de reproche, ne le met à l'index. Il pourrait, on a par exemple Jésus qui à certains moments va mettre en exergue le manque de foi de ses disciples. Autrement dit, je crois que c'est important de le retenir, Dieu sait ce dont nous sommes faits et ici il n'inspire pas à Élie une parole de jugement face à Abdias. Il inspire plutôt une parole qui réconforte. Et c'est ça qui est extraordinaire avec notre Seigneur. À certains moments, il va nous reprendre dans telle ou telle attitude. Et à d'autres moments, parce qu'il sait que ce n'est pas le moment, il ne reprochera pas l'attitude, mais au contraire, il donnera une parole d'encouragement. Et ça, c'est peut-être pour nous quelque chose à méditer. On est souvent prompt à juger, moi le premier, et à dire des choses après on regrette parce que peut-être ça fait plus de mal que de bien. Et qu'à ce moment-là, ce qu'il fallait, c'était une parole d'encouragement et le reproche aurait pu venir à un autre moment, enfin le reproche, disons, la reprise de l'attitude qui n'était pas juste aurait pu venir à un autre moment. Donc, Élie se contente de lui dire qu'il va effectivement venir, et là, Abdias ira. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, je crois que on peut facilement s'identifier à Abdias. Il est difficile d'être toujours des Élies intègres dans la foi jusqu'à l'extrême. Élie était un homme de la même nature que nous, dit l'Évangile, enfin dit le Nouveau Testament, Élie était un homme de la même nature que nous, mais en même temps, il avait une conscience dans la parole de Dieu, dans laquelle nous avons parfois du mal à nous identifier. Et je crois que Abdias est là aussi pour nous, dans ces moments où peut-être, eh bien, nous ne sommes pas des hommes entiers ou des femmes entières, où nous marchons d'un pas, mais qui n'est pas si assuré que cela. Dieu nous aime, Dieu sait toutes choses, Dieu sait notamment que Abdias était quelqu'un qui le craignait beaucoup. Et c'est Abdias qu'Élie va rencontrer en premier. Et Dieu veut que ça soit un Abdias, il aurait très bien pu mettre Akab sur la route d'Élie. Non, non, c'est Abdias qui est là. Et Dieu, dans son plan, a besoin d'Abdias. Même si Abdias est un homme mal assuré dans sa foi. Donc si, à certains moments, nous avons traversé ces zones obscures, ces zones où eh bien, nous sommes des enfants de Dieu, un peu caméléons, des enfants de Dieu qui ont du mal à transparaître, Dieu ne nous a pas rejetés. Dieu nous aime, Dieu nous connaît, et il souhaite nous utiliser tels que nous sommes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devons rester en permanence dans ce clair-obscur, dans cette situation où nous ne nous affirmons pas. Remarquez bien que si Dieu a décidé qu'Abdias devait être l'intermédiaire, il n'en demeure pas moins que c'est Abdias qui va devoir affronter Akab avant Élie et qui va le faire. Et que quand Élie le rencontre, il ne fait pas de grand discours, il dit « C'est moi, va dire à ton Seigneur, voici Élie. » un ordre qui est en rupture avec ce que spontanément Abdias aurait aimé faire. Et je crois que c'est un encouragement que nous devons recevoir. Eh bien, Dieu nous appelle à être des gens qui sont entiers pour lui. Entier, c'est un double sens, ça veut dire pas partagé, mais c'est aussi la définition d'un caractère, hein. On dit d'un caractère entier, quelqu'un qui a du mal à faire des demi-mesures. Alors, ce n'est pas toujours très positif d'avoir un caractère entier, parce que souvent, on est un petit peu comme un bulldozer, c'est-à-dire que pour arriver à faire son chemin, on écrase des choses sur son passage, on en pousse, qui ne sont peut-être pas toujours liées à ce qui était la mission au bout, mais qui sont c'est des choses là sur le passage. Donc, le terme de caractère entier ne veut pas dire que tout ce qui est un caractère entier est forcément inspiré de l'Éternel. Mais en même temps, je crois que c'est là pour nous parler de gens qui sont tout entiers vers ce à quoi ils tendent. Et je pense qu'ils ont à découvrir que s'il faut être entier, peut-être on a des outils plus performants que le bulldozer et que dans certains cas, on peut marcher comme sur des œufs tout en restant fixé sur l'objectif. Mais ils sont aussi là, ces gens au caractère entier, pour nous montrer un exemple de ce que ça veut dire être entier pour l'Éternel, c'est-à-dire de ne jamais perdre l'objectif de notre salut. Dans la lettre aux Éphésiens, il est dit que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés non pas pour être sauvés, mais pour accomplir quelque chose ou des choses que Dieu avait préparées bien avant que nous soyons sauvés pour que nous rentrions dans son plan. Et être entier pour Dieu, c'est se poser la question « qu'est-ce que Dieu a préparé pour que je rentre dedans ?» Et je crois qu'Abdias est là pour nous dire « certes, à certains moments, tu n'es peut-être pas entier, demande pardon pour ce que tu as fait qui était d'une demi-mesure, mais maintenant va de l'avant et sois entier pour ton Dieu. » Et il y a donc un troisième personnage qui est cet Élie. Élie, un homme de la même nature que nous. Un homme qui va prier et à la suite de sa prière, la pluie va s'arrêter. Et puis un homme qui priera à nouveau avec une attitude de prière très étonnante, hein, vous la trouverez à la fin de ce chapitre 18, mais un homme qui va donc prier et lutter avec Dieu pour que la pluie revienne. C'est très étonnant parce qu'il y aurait des choses à dire derrière cela, ce n'est pas du tout mon objet aujourd'hui, mais remarquez bien que c'est Dieu qui demande à Élie de prier pour que la pluie s'arrête et qui demande à Élie de prier pour que la pluie revienne, mais curieusement, il ne le fait pas instantanément, il y a un véritable combat dans la prière pour que cette pluie revienne. Moi, je crois que cet Élie est là pour nous montrer une cible. Vous savez qu'il n'y a que deux hommes dans toute l'histoire biblique qui ne sont pas passés par le jugement de la mort, qui ne sont pas passés par la mort physique. Et c'est ce deuxième personnage. Il est exemplaire en bien des égards. Un homme qui va être capable de courir, conduit par l'Esprit de Dieu, 27 km devant un char. Entier. Même entier, dans la capacité à utiliser ses forces physiques. Alors bien sûr, c'est la force que l'Éternel lui donne, mais enfin, c'est lui qui a commencé à courir quand même. Je crois que c'est ça qui est important. C'est vraiment un homme exemplaire. Certes, peu de temps après, on le retrouve alors complètement de notre nature, capable de déprimer, de partir, de faire en 40 jours. Alors c'est très étonnant, vous verrez, vous relirez les textes aussi. On le voit après avoir mangé ce que l'ange avait préparé, marcher 40 jours et 40 nuits avec la force que ça lui a donné. Mais regardez une carte, il n'allait pas bien vite. Hein. Parce que ce qu'il a fait en 40 jours, ça se fait en 10 jours normalement. Et lui, il a fait en 40 jours et 40 nuits. Donc ce n'était pas le pas gaillard, c'était le pas au contraire de celui qui est vraiment là, lourd, qui marche parce qu'il faut marcher, mais qui ne marche pas avec entrain, qui ne marche pas bien vite, qui marche très lentement. Donc c'est un homme qui est très intéressant à observer. Et on va le faire là cet été avec les ados qui seront sur le séjour Alpes Sensations. Vous pouvez prier pour qu'il soit marqué par cette Élie. Mais un homme qui est là pour nous montrer un chemin. Je crois que plus que d'autres prophètes encore, il est là pour être un modèle de Christ dans beaucoup de choses. Et c'est cet Élie qui, juste après ce qu'on a lu au chapitre 18, va accomplir un des sacrifices les plus étonnants, mettant son taureau, demandant à des gens de remplir d'eau le fossé qui est autour, et puis qui va invoquer l'Éternel et qui va voir le feu qui répond du ciel, qui va consumer à la fois l'Holocauste et mettre en vapeur l'eau qui était là tout autour et sur l'Holocauste. Cette confiance dans ce que Dieu a dit, si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Alors, dans l'esprit de cet Élie, j'aimerais nous laisser un dernier texte. Je relis à titre personnel les lettres à Timothée. Et donc, je vous invite à prendre la première lettre à Timothée. Vous savez, Timothée était un homme de la même nature que nous aussi. Et à certains moments, je pense que ce Timothée devait plus ressembler à Abdias qu'à Élie, car Paul est vraiment obligé de lui donner beaucoup de conseils. Et notamment par rapport à sa timidité ou encore par rapport à l'abandon, semble-t-il, qu'il pourrait avoir du don qui lui avait été donné, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de conseils pour quelqu'un qui aurait été un Élie d'un bout à l'autre. Je ne vois pas Paul écrire à Élie quelque chose comme ça, quoi. Enfin, en tous les cas, pas la période qui est rapportée de la vie d'Élie. Et il lui écrit au chapitre 1, verset 18... La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. La recommandation que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat. Et je mets en parallèle ce texte des Éphésiens, sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vous propose de prier pour que chacun d'entre nous ici, nous puissions vraiment rentrer dans le combat que Dieu a préparé pour nous. Je veux te remercier, Seigneur, parce que en ces trois personnages, tu résumes beaucoup des moments de notre vie. Je veux te remercier parce que un jour, j'étais un Akab qui marchait selon mes voies, ne te connaissant pas. Et tu m'as rencontré et tu m'as permis que je devienne ton enfant. Et puis souvent, Seigneur, je suis aussi cet Abdias qui ne se démarque pas suffisamment des choses de ce monde pour marquer le sel que tu voudrais que je sois. Et puis, Seigneur, à certains moments, tu permets aussi que je marche avec toi, peut-être pas assez souvent, peut-être pas comme tu le voudrais. Et je crois, Seigneur, Nous pouvons beaucoup, être beaucoup à nous identifier dans cette prière-là. Alors je veux te prier pour chacun d'entre nous ici, Seigneur. Que tu nous aides à avoir comme cible Élie. Ou encore, Seigneur, ton propre Fils Jésus-Christ présent parmi nous il y a quelques 2000 ans. Seigneur, que tu nous aides à marcher pleinement pour toi, chaque jour. Que tu nous aides à être les lumières de la terre, à être le sel de la terre dans toutes nos attitudes. Aide-nous, Seigneur, à être des gens réfléchis et qui comprennent ta volonté et comment l'accomplir sur cette terre. C'est là notre prière en Jésus-Christ. Amen.